André le Moine, Alice Devran. Le vieux château de Ruis ne s'était pas relevé de ses débris depuis le siècle dernier. Presque aux limites de nos deux plus belles provinces, dans cette région voisine de la mer où l'austère Bretagne commence à se fondre dans la grasse Normandie, mais assez loin pourtant de nos lignes de fer et des grandes routes départementales, il était fort peu connu des archéologues il y a quelques années. De rares paysagistes, marcheurs infatigables que rien n'arrête, savaient seuls qu'on trouvait là, dans un pli de vallée, trois fragments remarquables de l'architecture oubliée d'un autre âge. La haute arcade d'une chapelle antique, dont la courbe hardie était enveloppée de rosiers sauvages, un escalier tournant, vrai bijou d'orfèvrerie, qu'un chèvrefeuille enguirlandais de ses fleurs mêlées aux grappes vermeilles des viornes aubiées. Escalier, surpris de ne plus conduire nulle part, et dont la dernière marche tronquée s'arrêtait brusquement en plein ciel. Enfin, une grande rosace intacte dans sa rondeur, dentelle de pierre brodée à jour et suspendue par des points d'attache invisibles, comme une toile d'araignée gigantesque entre deux massifs de hauts châtaigniers. Elle était absolument veuve de tous ses vitraux à riches enluminures, mais en revanche laissait transparaître la rougeur des aurores et les adieux pourprés des soleils tombants. On eût dit que la nature et l'art s'étaient donné le mot pour faire un mariage pittoresque des plus heureux entre ces vénérables débris et ces luxuriantes floraisons. À l'arrière-plan des ruines, sous le tapis vert mat des lentilles d'eau, de longs étangs dormaient à perte de vue entre d'interminables rangées de hêtres. La perspective avait quelque chose d'étrange, de féerique et de légendaire. On ne voyait jamais personne au fond des avenues, mais parfois deux sveltes amoureux en robe fauve et lustrée, un chevreuil et sa chevrette, venus en curieux jusqu'au bord des anciennes douves, vous regardaient passer de leurs grands yeux naïfs, aussi tranquilles dans ce vieux parc oublié que si les hautes futaies de la Belle au bois dormant. Il existait pourtant dans la contrée un comte de Ruis, de la vraie souche des anciens maîtres féodaux, mais ces ruines ne lui appartenaient pas et jamais il n'avait pu racheter ses précieux souvenirs de famille. C'était d'ailleurs un singulier personnage. À 23 ans, après avoir achevé son droit à Rennes et commencé sa première année de stage à Paris, il ne put voir longtemps la majorité de ses collègues plaider le pour et le contre avec la plus scandaleuse indifférence. « Alors, décidément, pensa-t-il, je ne veux pas vivre d'un métier pareil. » Avec son intelligence et son nom, il eût pu prétendre une position fort enviable dans la magistrature, mais à la condition d'être rivé du matin au soir sur le même siège, pour n'assister en définitive qu'au désolant spectacle de nos infirmités morales. Cette honorable immobilité ne souriait pas à sa vive et franche nature expansive, impressionnable parfois jusqu'à l'invraisemblance. D'autre part, il se souciait médiocrement du régime militaire et ne sentait en lui aucune vocation prononcée pour entrer dans les ordres. Il se trouvait donc étrangement dépaysé à notre époque essentiellement pratique, où il faut être classé, enregistré, étiqueté, numéroté, immatriculé pour devenir quelqu'un ou quelque chose, à moins d'aptitudes industrielles ou commerciales de haut vol ou de grande aventure, grâce auxquelles les affaires étant surtout l'argent des autres, on arrive à une fortune rapide ou au train express filant à toute vapeur sur la frontière du Nord. Après avoir jeté sa toque et son rabat, notre gentilhomme s'en revint tout droit au petit bourg de Ruis, retrouver la seule personne de sa famille qui lui restât encore au monde, la sœur de son père, une sainte et bonne vieille demoiselle qui, au triste jour de l'émigration, avait beaucoup souffert, beaucoup pleuré, beaucoup brodé, se perdant les yeux à cette ingrate besogne de fée. Et plus tard, elle était devenue aveugle tout à fait. Quand elle entendit la voix de son neveu revenant, elle ne put d'abord en croire à ses oreilles. Elle se leva en sursaut de son fauteuil, mais, étant seule et ne pouvant prendre son élan dans les ténèbres, toute droite et immobile, elle attendit. Et quand elle put étreindre ce jeune et unique enfant de son frère défunt, elle l'embrassa convulsivement, le toucha, le respira, se haussa sur la pointe de ses petits pieds pour mieux envelopper son cou de ses deux mains qui tremblaient, et resta longtemps sans pouvoir parler. Albert Huys la remit doucement dans son fauteuil, et s'agenouillant devant elle en lui baisant les mains. « Bien-aimée tante Berthe, lui dit-il, ne soyez donc pas ému à ce point. Je reviens en santé, en très bonne santé, et les joues roses vives comme une vraie pomme normande, et rondes, à s'y mordre de toutes vos lèvres. » Là, elle recommençait. « Oh, si j'ai quitté Paris brusquement, sans vous écrire, j'ai eu tort. J'aurais dû vous prévenir. Mais, tenez, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Je ne veux être ni avocat, ni juge, ni commerçant, ni industriel, ni quoi que ce soit au monde. Après 2 fous 10 ans de collège, entre 4 grands murs, 10 ans de prison, qui vous ont coûté cher, après avoir... 3 années de ma sèche école de droit et presque 6 mois de stage. Oh, j'en ai assez, j'en ai trop de cette vie renfermée. Je n'aurais pas le courage de continuer mes jours dans un cabinet d'affaires ou l'enceinte malodorante d'un tribunal. Je veux vivre enfin en liberté ou en terre, avec vous, ma tante chérie. Je viens vous revoir pour vous entendre, pour vous aimer. Car je ne vous ai ni assez vu, ni assez aimé jusqu'à présent. Nous avons trop vécu séparés l'un de l'autre. Il me tarde de réparer tant d'années perdues pour le cœur. Nous ferons tous deux, vous appuyés à mon bras, de longues promenades au soleil, qui ne vous fatigueront pas. Et le soir, au veillée, je vous relirai lentement tous les beaux livres que vous préférez, tandis que vous tricoterez à l'aise vos petites jupes de laine pour les fillettes des pauvres gens. Et il nous restera encore de longs jours bénis à passer ensemble pour nous aimer. » La pauvre femme était folle de joie et ne savait que répondre à tant d'affectueuses câlineries très sincères, échappées d'un cœur débordant. Elle fut vraiment très heureuse d'abord, se laissant vivre sans arrière-pensée, et sentant remonter en elle comme une sève des vieux jours. Mais, peu à peu, les réflexions soucieuses reprirent le dessus. Elle gardait son idée fixe, se réservant au tout tard de remettre les arguments sérieux en ligne de bataille. Par une singularité curieuse chez certains aveugles, malgré les rudes épreuves du passé, malgré l'affreuse nuit qui, depuis 20 ans, s'était faite autour d'elle, les pensées de Mademoiselle Berthe n'étaient pas généralement tristes. Depuis longtemps résignée à vivre de prières et de recueillement, déshabituée de voir avec ses yeux réels toutes nos laideurs contemporaines, elle vivait, réfugiée en elle, comme dans une sainte chambre noire qui ne tamisait plus que les rayons d'or des plus beaux souvenirs. Il lui suffisait de regarder en elle pour y trouver toutes les richesses du monde intérieur. Sous son petit bonnet ruché, d'où s'échappaient quelques touffes de cheveux blancs, très doux à voir, son visage pâle à ton d'ivoire rayonnait d'une beauté surnaturelle. Certes, l'âge y avait imprimé ses rides, mais irradiées et peu profondes, ses rides étaient belles. Elle racontait simplement toute une vie de sainte abnégation, d'humble héroïsme et de piété fervente. D'aucun matin qu'Albert promenait Mademoiselle Berthe par un chaud soleil qu'elle n'apercevait plus, mais dont les rayons vivifiants passaient comme une caresse de velours sur ses paupières closes, presque heureuse ce jour-là, la petite vieille aborda résolument la question d'avenir. « Mon cher enfant, réfléchis un peu. Quelle figure feras-tu dans le monde avec nos 5 ou 6 000 livres de rente? Car tu le sais, voilà tout ce qui nous reste. » « J'espère bien ne pas faire trop mauvaise figure, » reprit presque en riant. « Oh, ici, nous ne sommes pas à Paris, et d'ailleurs, vous devez me rendre seule justice, que je ressemble guère à l'enfant prodigue. Ce serait plutôt le contraire. » Loin de vouloir m'échapper à tire-d'aile de mon cher coin natal, c'est toujours à contre-cœur et pour vous obéir que j'en suis parti. Et durant toutes mes absences, à mon gré beaucoup trop prolongé, je m'étais tourmenté que d'un éternel esprit de vous revoir, de retour. Mais maintenant que me voilà revenu, je me trouve très bien ici. Pourquoi changer ? Je n'aime pas le jeu, je n'ai point la folle passion des voyages lointains, ni des toilettes extravagantes, toutes causes de ruine. Et il me semble que jusqu'à présent, nous avons très bien pu faire face à toutes nos dépenses, et même au-delà. Mais c'est bel et bien pour le présent, reprit-elle, mais l'avenir. Je ne serai pas toujours là pour veiller à l'ordre de la maison. Je me sens lasse, et peut-être le temps n'est pas loin. Oh, tiens, j'ai froid rien que d'y songer. Il est encore loin, ce temps-là, grâce à Dieu, reprit Albert vivement. Pourquoi vous mettre en tête de ces idées noires ? Vous marchez droit comme une demoiselle de 20 ans. Les années n'ont aucune prise sur votre petit corps robuste. Vous avez passé vaillamment l'âge des crises, et vous êtes au beau fixe de la vieillesse, en fleurs, qui vaut mieux assurément que les maturités chancelantes, comme on en voit tomber tous les jours. Et plaisante, et tu détournes la question. Tu sais parfaitement ce que je veux dire, et tu fais la sourde oreille. Tu peux pourtant pas vivre seul, il te faudra tôt ou tard une femme à ton foyer, quand je ne serai plus là, sans trop attendre. Lorsque tu voudras, tu pourrais fort bien. Ah, négocier un mariage avantageux, n'est-ce pas ? Ma foi, non, ce n'est pas là ma manière de voir. Mais tu ris comme un grand enfant des choses les plus sérieuses. Mais trop sérieuses, ma tante, beaucoup trop sérieuses pour moi. C'est donc bien effrayant qu'une belle et pieuse jeune fille, heureuse de porter votre nom, qui mettrait sa petite main blanche tout émue dans la tienne, en souriant de visage, dans toute la grâce de son cœur, sans courir bien loin, dans la contrée, il en est, qui sans être absolument très riche, te donnerait une aisance honorable. Tu peux les voir, il en est de fort belle, dit-on, qui ne serait pas fâché d'être vu. Tu connais les frères, les cousins, les grands-parents, qui te feraient certainement facilement accueilli dans une partie de chasse, une promenade au bain de mer, quand tu voudras, au lieu de vivre en sauvage, comme un ours. Ma foi, tant pis, le mot est lâché. Mais le neveu restait inflexible sur le chapitre du mariage. Il était encore bien jeune, on avait le temps d'y songer, sa trentaine n'était pas sonnée. La pauvre vieille se demandait s'il était pétri d'un autre limon que les autres hommes, si jamais un regard de femme n'avait rien éveillé dans ce cœur dormant, ou si quelque passion profonde et cachée, quelque amour impossible, le rendait invulnérable à tout autre amour. Enfin, un jour, à bout d'arguments, butée, perdant patience, Mademoiselle Berthe lui dit à brûle-pourpoint: « Fais-moi une promesse, Albert. »« Volontiers, laquelle ?»« D'épouser la première femme qui te plaira réellement. »« Oui, je le jure, mais à une condition. »« Dis, c'est que cette charmante personne voudra bien de moi. »« Assurément, » répondit aussitôt Mademoiselle Berthe. « Ce serait donc bien difficile, » murmura-t-elle tout bas. » Mais elle ne laissa rien voir de sa pensée, qui s'acheva dans un sourire intérieur. Et n'allez pas croire qu'avec sa nature primitive un peu sauvage, Albert de Ruys fut un rêveur de la famille des Obermann ou des René, loin de là. Il n'avait absolument rien de ces grands mélancoliques incompris, disparus avec les derniers types du romantisme. Lui aimait sincèrement la vie dans sa belle acception du mot. Il admirait en toute sincérité les œuvres du grand créateur inconnu, et sans être précisément un artiste, Il regardait de tous ses yeux les magnifiques paysages de mer et de grève si fréquents aux dentelures des côtes bretonnes. Quant aux œuvres humaines, il appréciait en connaisseur les pages émues de nos grands poètes contemporains et vibrait de tout son être à une phase musicale et profonde de Beethoven. En outre, si comme orateur, il avait renoncé à donner de la voix dans la grande meute et enrouée du baroque moderne, il possédait en revanche un fort bel organe de ténor pour redire à Mademoiselle Berthe les romances et les légendes fleuries du vieux temps. Ajoutons que, se plaisant fort à la campagne, il savait faire œuvre de ses 10 doigts dans la vie pratique. C'était un disciple fort avouable de Saint-Hubert et de Saint-Pierre, ayant le coup d'œil sûr et la main prompte pour abattre au vol une pièce de gibier. Sans être un pêcheur à la ligne, il savait à propos mouiller ses verveux sous les herbes, en droit fil des eaux courantes, et quand il ramenait gravement son filet sur l'épaule, il n'y avait pas dans la Manche et l'île des Vilaines un garçon de boulin pour dessiner en rivière un plus beau rond d'épervier. Ces menus talents, d'ailleurs, ne servaient pas à un égoïste. S'il y avait une fête de famille, un baptême, un mariage parmi les pauvres gens du pays, on était tous surpris de voir apparaître une belle truite de roche ou une grosse carpe à miroir apportée sur la table par une main invisible, comme dans un conte de fées, sans oublier les perdreaux, suivant l'ordre des saisons. Un jour, la femme d'un sabotier qui attendait la venue de son 3e enfant fut prise d'une folle envie de canard sauvage. Albert en eut vent, courut à plusieurs lieues de là, tout près de Pont-au-Beau, et s'enlisa jusqu'au jarret dans les herbes de la Séune, à la poursuite d'une superbe colvert qui avait sa charge de plomb dans l'aile. Il y risqua sa vie et en fut quitte pour une belle fluxion de poitrine, bien caractérisée, mais la femme du sabotier mangea du canard sauvage. Notre singulier gentilhomme, ne pouvant être l'oppresseur de vassaux qui n'avaient plus, se contentait d'être adoré de ses voisins qui le nommaient « Monsieur Albert » tout court, résurmant tous ses titres dans la noblesse de son cœur. Il se laissait donc vivre depuis 5 ou 6 ans de cette bonne vie au grand air, vie rustique et bien employée, lorsqu'un soir il rentra chez lui tout désappointé, avec quelque chose de profondément triste dans la voix. « Tante Berthe, vous ne savez pas? Qu'est-il arrivé, mon enfant? Je viens d'entendre un piano chez l'anglais. » Un piano chez l'anglais, non, impossible. Mais à coup sûr, c'est pas Germaine. Non, non, Germaine n'en joue pas. Ici, quelques lignes sont indispensables pour l'intelligence du récit, car il faut bien expliquer par quelles mains et quelles fortunes diverses avaient passé les débris du vieux château de Ruys. Il avait eu pour premier acquéreur à vil prix en 1795 un tonnelier de vire, qui ultérieurement s'était arrondi de quelques-unes de ses dépendances en prés, étangs et bois, pour revendre le tout d'un bloc à un marchand de bestiaux de Saint-Hilaire-du-Harcouët, lequel avait doublé son gain en cédant l'immeuble et les ruines à un notaire de Vitré vers 1835, époque où dans notre atmosphère poétique le vent soufflait au Moyen-Âge. L'heureux notaire, dans un rayon d'or de sa lune de Saint-Miel, avait sérieusement parlé d'une restauration complète et définitive de l'antique manoir, mais devant le devis monumental de son architecte, il avait demandé à réfléchir. Plus tard, d'ailleurs, ses garçons grandissant, ses fillettes fleurissant, obligés de faire face aux dépenses du collège et aux frais du couvent, il avait renoncé, bien qu'à son grand regret, à tous ses rêves d'artiste. Comme ses prédécesseurs, il avait profité d'une fructueuse occasion pour se défaire de l'immeuble et des précieuses ruines en faveur d'un touriste du Cumberland, James Wilson, Esquire, insulaire d'un blond fauve, garçon moyen, à qui sa fortune princière permettait de réaliser ses plus riches fantaisies. Phtisique, d'ailleurs, à un degré suffisant pour que ses deux médecins lui eussent expressément ordonné un climat moins brumeux que sa Grande-Bretagne. Mais, au premier jour de novembre, il avait grelotté et déguerpi pour se rendre en Touraine. Ce jardin de la France se trouvant encore trop humide pour sa poitrine délicate, il s'était réfugié dans le Midi, à Pau d'abord, puis à Grenade et enfin aux Canaries. Il avait eu le temps d'enterrer ses deux médecins avant d'en être aux dernières périodes de son affection, mais depuis 20 ans, dans le bourg de Ruisse, personne n'en avait entendu parler, excepté son jardinier, constitué gardien des ruines, auquel il payait exactement de gros appointements trimestriels, mais avec défense expresse et réitérée de ne jamais laisser entrer homme qui vive dans les ruines qui appartenaient bien et dûment à lui seul. James Wilson, Esquire. Cette façon d'agir semblait peut-être un peu britannique, mais il en était ainsi. Et pour sa part, le jardinier était trop intéressé au respect de la consigne pour ne pas l'avoir scrupuleusement respectée. Germaine était précisément la fille du jardinier chez laquelle Albert avait entendu le piano de la veille, exécutant pour la première fois, avec une verve endiablée, une grande valse de Strauss dans le silence des ruines. Fille unique élevée dans un des meilleurs pensionnats de Rennes, Germaine faisait la pluie et le beau temps dans la maison paternelle, maison coquette et confortable, aménagée dans un coin des ruines, et tenant de la ferme, du cottage, de la ville, comme savent en construire nos voisins d'outre-Manche, sur les vertes pelouses des îles anglo-normandes. Vive, alerte, spirituelle et pimpante comme nos fraîches soubrettes de l'ancien répertoire, Germaine était un des bons partis de la contrée. Son père avait cumulé depuis 20 ans comme jardinier pépiniériste, gardien des ruines et maître meunier, mais les gros propriétaires d'herbages et les notables marchands de bestiaux du pays n'avaient pas encore osé se frotter à sa petite main blanche, effarouchée par ses airs de grande demoiselle, malgré sa joyeuse humeur et ses beaux rires d'argent clair. Il comprenait, sans doute, que la belle fille tenait son cœur et sa dot en réserve pour quelque jeune notaire bien propre, en quête d'une étude ou un substitut en passe de devenir procureur. À 20 ans, elle se trouvait assez jeune pour attendre. Albert, l'ayant connue tout enfant, avait gardé l'habitude de la tutoyer et entrait familièrement dans la maison à toute heure. On s'y trouvait toujours enchanté de sa visite. Oh, j'en aurai le cœur net aujourd'hui même, se dit-il en se levant de très bonne heure après avoir mal dormi. Je veux avoir le secret de cette musique scandaleuse. Et prenant son fusil sous prétexte de battre les environs, tandis que sa tête battait un peu la campagne, il se mit à poursuivre un gibier fictif en attendant que Germaine eût ouvert ses fenêtres. Ce matin-là, les perdreaux lui partaient dans les jambes, il oubliait de les voir, et arpentait comme un fou les genêts, les bruyères et les champs de sarrasin. Il recommença 3 ou 4 fois le tour de la maison en resserrant les cercles, comme s'il craignait d'arriver trop vite et d'apprendre trop tôt quelque fatale vérité. Il fit tant et si bien qu'il était près de 9 heures, quand il apparut dans l'avenue, par une pluie battante, trempé jusqu'aux os, avec son feutre à bord pleurant et son chien à l'arrière, la tête et la queue basse, tous deux en fort piteux état, ne se faisant guère qu'il servait de point de mire, par une fenêtre entrebâillée, à 2 paires de regards féminins, fort beaux sans doute, mais très peu charitables dans ce moment-là. Ceux de Germaine, d'une part, puis ceux d'une autre personne qui bientôt se présentera d'elle-même. Quand cette dernière entendit le pas du chasseur dans l'escalier, elle se glissa prestement derrière 2 grands rideaux de percaline qui, tout au fond de la pièce, abritaient les robes de Germaine, et ramenant les anneaux sur les tringles, Elle se blottit, en vraie curieuse qu'elle était, dans cette cachette improvisée, n'oubliant pas de s'y ménager une petite ouverture dans le cas où il lui plairait d'y couler son œil. Le comte entra mouillé, soucieux et d'assez méchante humeur. « Dieu, comme vous voilà fait, mon pauvre monsieur Albert !» s'écria Germaine en joignant les mains et réprimant à grand-peine un sourire. « Mais venez donc vous réchauffer !» Et jetant dans l'âtre une brassée d'argent sec et de menu brindilles pétillantes, elle fit une large flambée au chasseur ruisselant. « Il y a du nouveau, n'est-ce pas, Germaine ?» dit Albert anxieux, en apercevant un magnifique piano d'Erard qui tenait toute la pièce entre la porte d'entrée et la première fenêtre. « Mais sans doute, mais asseyez-vous d'abord et commencez par sécher vos guêtres. Oh, si ne regardez pas d'un air sournois ce pauvre meuble qui ne vous a fait aucun mal. » Cinq minutes plus tôt, vous auriez pu voir le musicien, enfin la musicienne, veux-je dire, elle sort d'ici. « Ah !» fit Albert sur le ton de la plus parfaite indifférence. « Et l'anglais ?»« Mais il n'y a plus d'anglais. Ce brave monsieur Wilson, oh que Dieu ait son âme originale, ne voyagera plus dans notre monde. Il est parti pour le grand voyage. » Mais n'a-t-il pas eu la fantaisie de laisser par testament 20 000 francs à mon intention quand il me plaira d'entrer en ménage? Qu'en dites-vous? Pour ne m'avoir vu qu'une seule fois, toute petite au berceau, la bouche ouverte et les yeux dormants. Et aujourd'hui, comme je n'ai plus de secret à garder, je puis bien tout vous dire. Mais ne froncez pas le sourcil et ne vous tourmentez pas d'avance pour des nouvelles qui, après tout, ne sont pas si mauvaises que vous semblez le craindre. » Albert, un peu rassuré, s'établit carrément dans la grande chaise que lui présentait Germaine avec sa bonne grâce habituelle, tandis que son épagneul, qui répondait au nom de Sémillan, allongeait son museau tranquille sur deux pattes à la meilleure place du foyer. Albert avait jeté son feutre et la flamme éclairait sa belle tête bretonne au profil de Gerfaut, corrigé par un doux et profond regard et une bouche exquise dans sa courbe irréprochable, ombragée d'une fine moustache noire. Il secoua brusquement sa grande chevelure mouillée et un vif éclair de bonté lui passant dans les yeux. « Voyons, ma petite Germaine, raconte-moi ce que tu sais. » Mais d'abord, est-ce un héritier de l'anglais que la propriété ?» Non, 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 cette fois la terre de France est rachetée par un Français. Ah, un gentilhomme ? Pas précisément, mais un notable personnage, considérable et considéré, et fort aimé dans son département, membre du Conseil général et député, s'il vous plaît, homme richissime, un flatteur de Rouen, monsieur Grand Perrin. Grand Perrin, je ne connais pas ce nom-là. « Mais le piano, ce n'est pas M. Grand Perrin, je suppose. »« Oh non, certes, c'était Mademoiselle Alice Desvrans. »« Inclinez-vous devant ce beau nom, fille de Madame la Marquise Desvrans, dont, sans vous obliger, la noblesse est aussi pure froment que la vôtre. »« Mais quel rapport entre Mademoiselle Desvrans et M. Grand Perrin ?» « Attendez, vous désirez tout savoir avant d'avoir entendu. Mademoiselle Alice Desvrans est la belle-fille de M. Grand-Perrin, par cette raison bien simple que M. Grand-Perrin a épousé Mme Veuve la marquise Desvrans, sa mère. »« Moi, c'est forte mésalliance entre l'Hermine et le blaireau. »« Vous en parlez bien à votre aise, vous, M. Albert. Et la rigueur des temps, vous n'en tenez pas compte ? Vous ne savez pas que ce pauvre marquis avait risqué et perdu presque tout son avoir dans une entreprise industrielle où il ne voyait pas clair et qu'il avait laissé sa veuve ruinée, d'une santé très compromise, avec une charmante petite fille aux yeux superbes, mais qui toussait en faire frémir, et qu'il n'avait plus qu'un souffle. Monsieur Grand Perrin, depuis longtemps reçu et estimé dans la famille, et des riches à millions, est venu à point dans une heure de crise. et a demandé très humblement sa main à Madame Desvran, qui, ne songeant qu'à sa chère petite presque bourrante et dont l'avenir était noir, a consenti par amour maternel. Et voilà comment Mademoiselle Alice Desvran est devenue la belle-fille de Monsieur Grandperrin. Circonstance atténuante, répondit Albert avec un soupir d'allègement. C'est égal, pour la marquise Desvran, s'appeler Madame Grandperrin, c'est dur. Peut-être, reprit Germaine. Mais depuis, la petite fille a grandi dans l'or et dans la soie, comme une belle enfant dorlotée, gâtée, adorée. Autrement, elle n'eût pas vécu et ne fût pas devenue la grande demoiselle que vous auriez pu voir si vous étiez entrée 5 minutes plus tôt. Charmante, oui, un modèle de perfection, n'est-ce pas ? Dit Albert avec une nuance d'ironie. Mais sans doute, oui, fort belle à tous égards, oh, ni trop sérieuse, ni trop enjouée, pensant juste, parlant bien, et marchant avec une grave élégance. Mais tenez, brisons-la, vous m'en feriez trop dire. Une vraie parisienne moderne, dit gaiement Albert, jouant Orphée aux enfers et giroflée girofla. Oh, reprit vivement Germaine, vous qui chantez si bien, soit dit sans compliment, si vous entendiez de sa main Mozart et Beethoven, dès la première note, vous comprendriez qu'elle a su garder le respect des maîtres. Mais tu m'en parles, dit curieusement Albert, comme si tu la connaissais de très longue date. Certainement. Quand j'arrivais pour la première fois au couvent de Rennes, toute petite et un peu confuse dans ma courte jupe de cotonnade, Mademoiselle Alice s'y trouvait déjà parmi les grandes. Et malgré la différence d'âge et de race, elle vint à moi avec tant d'accueil, un sourire si charmant que je l'aimais à première vue, et depuis je ne l'ai jamais oublié. Et 3 ou 4 fois, depuis ma sortie du couvent, en allant voir Cancale ou le Mont-Saint-Michel, elle est venue, comme une bonne fée souriante, dire bonjour en passant à sa petite Germaine, et je vous avouerai que j'ai contribué pour ma part à l'achat de la propriété par Monsieur Grandperrin. Et sais-tu, Germaine, dans quel but il a fait cette acquisition de nos immeubles ? Est-ce pour y bâtir une maison de plaisance, y construire un château moderne en vieux style, ou simplement pour y jouir du revenu des terres en honnête et bon propriétaire ? Peut-être celui-là consentirait-il. Ah, vous vendre à part, n'est-ce pas, vos ruines de famille ? Oh, toujours cette idée fixe, dit Germaine en se touchant le front, mais avec un sourire, un regard d'ineffable commisération, comme si elle répondait à un enfant malade. Oh, sur ce chapitre-là, monsieur Albert, vous m'en demandez trop long, je n'en sais rien. Ben, tenez, voilà justement maître Gerbier qui passe dans la grande rue. Il a rédigé l'acte de vente et pourra vous renseigner mieux que moi. Mais tu as raison. Allez, au revoir, Germaine. Allons, c'est bien. Et le chien et son maître partirent comme un éclair. Dès qu'ils furent au bas de l'escalier, une tête rieuse et spirituelle, encadrée d'une luxuriante chevelure châtain clair, apparut entre les rideaux entrebâillés, qui s'écartèrent brusquement. Ouf ! Dit Alice Desvran. Oh, je dérogeais à ma dignité de demoiselle bien née dans ce rôle d'écouteuse, et je commençais à manquer d'air, mais j'ai pu tout voir et tout entendre. Et que pensez-vous de notre visiteur, mademoiselle ? Quel drôle de garçon ! Il a quelque chose de doux et de fier qui ne lui va pas mal, et j'avoue que pour un gentilhomme rural, il n'a pas l'air trop satisfait de sa personne. Ce qui ne me déplaît pas. Ah, pour celui-là, mademoiselle, à coup sûr, la fortune ne l'a pas gâté. Ben, il a pourtant, manière d'acquis, terminé consciencieusement toutes ses études de droit et commencé son stage d'avocat à Paris même. Mais le métier de Robin et la vie casanière lui répugnant d'instinct, il est revenu simplement au gîte pour y planter ses choux, comme on dit, ou plutôt pour y battre nos bruyères. Et pourquoi n'est-il pas entré dans la marine, cette belle voie toute grande ouverte aux aventureux ? Il aurait très bien porté l'uniforme et serait aujourd'hui à 30 ans, je suppose, officier supérieur. Avec sa fière mine, l'épaulette d'or lui vaudrait mieux que la veste de chasse et son chien au talon. Oui, sans doute, mais il n'a pas voulu quitter sa vieille tante aveugle, seul débris de sa famille, qu'il adore comme un fils. À cause d'elle, il a renoncé à courir le monde. Et ici, bon, ils vivent tranquillement, à deux avec 5 ou 6 000 livres de rente. Je dis tranquillement, non pour lui, car Dieu sait s'il est tourmenté par une idée fixe qui le hante jour et nuit. Il voudrait pouvoir acheter les ruines du château de ses pères, qui ne furent jamais à vendre en lots séparés, un coin de parc et ses ruines seulement. L'Anglais n'a jamais voulu en entendre parler, et d'ailleurs, serait-elle à vendre, sa mince fortune n'y suffirait pas. Voilà le papillon noir de sa vie. Et qui l'empêchait d'épouser une femme riche dans le pays, à Dole, à Combourg, à Fougère? Il n'en doit pas manquer qu'ils se fussent trouvés heureuse et honorée de porter son nom et dont la fortune. Eh bien, c'est précisément ce que lui a souvent répété Mademoiselle Berthe, sa digne tante, aveugle très clairvoyante, je vous assure. Mais il a constamment répondu qu'il n'était pas un coureur de dettes. Voilà son dernier mot, et nous en sommes. Quel singulier personnage, reprit Alice, moitié songeuse, moitié souriante. Il faudra sans doute que la demoiselle qui pourrait en vouloir lui vienne lui demander sa main. C'est le monde renversé. Il s'est fort peu inquiété du reste du portrait flatteur et à grand craie que tu esquissais de mon humble personne. Et comme il a dégringolé dans l'escalier avec son quadrupède, quand tu lui as parlé de ses ruines et de maître Gerbier. Chez lequel vous dînerez aujourd'hui avec M. Grandperrin. Il doit arriver ce soir à 6 heures précises. Oh, le notaire invitera peut-être aussi M. Albert, et, bien que très sauvage, il acceptera pour la question qui l'intéresse si gravement. J'en mettrai ma main au feu. Il n'est pas si facile qu'on pourrait le croire au premier abord de vivre en paix dans une petite ville ou dans un bourg de province. À Paris, chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut, perdu comme un libre oiseau dans la grande forêt. Mais en province, nous habitons des maisons de verre où tous nos actes sont contrôlés par les nombreux voisins qui n'ont rien de mieux à faire. En tenant compte des vanités en jeu, des amours propres froissés, des personnalités jalouses, on comprend sans peine que pour un petit nombre de gens groupés sur une motte de terre, il est aussi difficile de s'entendre que sur le pont d'un navire en mer ou entre les quatre murs d'un étroit couvent. Heureusement qu'à son bord, maître après Dieu, le capitaine a droit de vie et de mort sur l'équipage, et que dans un monastère, le supérieur tient la règle absolue dans sa main. La hiérarchie et la discipline sauvegardent l'ensemble et le détail. Chacun sait à quoi s'en tenir. Cela suffit à la rigueur, mais dans une petite ville, dans l'épanouissement des libertés municipales, c'est tout autre chose. Cependant, par une très rare exception aux règles générales, dans le bourg de Ruys, moitié breton, moitié normand, et composé de 2 longues rangées de maisons curieuses, aux 2 bords de la route, baptisées du nom de Grande Rue, les 3 personnages principaux de l'endroit avaient résolu ce difficile problème de vivre en assez bonne harmonie, comme des êtres intelligents et d'honnête compagnie. L'abbé Dufresne, curé de la paroisse, le médecin des âmes, le docteur Le Bihan, chargé des cures corporelles, et maître Gerbier, déjà nommé, minutant les divers contrats de sa nombreuse clientèle. Ils se voyaient journellement en très bons termes, et ces 2 derniers avaient leur banc à l'église. La foi du docteur était peut-être à dose homéopathique, et on eût trouvé sans doute un grain de scepticisme au fond des croyances de maître Gerbier, mais il n'y paraissait guère. Ils écoutaient religieusement la messe du dimanche et même parfois les vêpres des grands jours. Ajoutons que ces 3 honorables personnages n'étaient pas absolument dédaigneux des biens de la terre. La table de M. l'abbé se recommandait par les plus beaux fruits de la contrée, mûris dans ses jardins. pêches d'espalier d'un pourpre noir à faire envie aux couvreurs des scabieuses, poires fondantes teintées d'aurore, venues de ces vieux arbres en quenouille, et grosses rainettes à côte d'un jaune safran parfumé comme des fleurs de rosier sauvage. Le docteur était renommé pour les sauces relevées, les condiments de haut goût. Salmi de bécassine, coulis d'écrevisse, matelotte de carpe et d'anguille, et surtout une merveilleuse sauce au lièvre à consistance d'opiat et d'un accent à faire perler les temples les plus braves. Quant au notaire, il avait la spécialité des crèmes. Grâce à Madame Gerbier, et dans le ministère de son intérieur, soignait particulièrement ses vins. Les meilleurs crus de Bourgogne et de Médoc se dépouillaient paisiblement dans ses caves, en attendant l'heure solennelle où Maître Gerbier, avec une paillette de joie dans l'œil à travers ses lunettes à branches d'or, versait d'une main recueillie le précieux liquide, authentique et vermeil, dans ses fins verres de mousseline transparent et haut sur tige, qu'on pourrait prendre pour des tulipes de cristal. On pense bien que pour faire honneur à M. Grandperrin, son nouvel acquéreur, Maître Gerbier n'oublia pas ses deux voisins. Et quand le contrebert de Ruiz, descendu précipitamment de chez Germaine, vint à la rencontre dans la rue, « Oh, cela se trouve à merveille, monsieur le comte !» dit en souriant Maître Gerbier. La politesse en personne. « J'allais précisément chez vous pour vous prier de vouloir bien être des nôtres ce soir même. Notre nouvel acquéreur, pardonnez-moi si ma réserve professionnelle m'a fait garder le silence jusqu'à présent, le nouvel acquéreur des immeubles en bloc de ce pauvre monsieur Wilson, monsieur Grandperrin, arrive à 6 heures précises et dîne à la maison. » « Mais, dit Albert en feignant une assez vive surprise, quel homme est-ce que ce monsieur Grandperrin ? Oh, un homme très recommandable, fort intelligent et tout rond, qui vous regarde bien en face. Un des grands industriels de notre monde moderne, quelque chose d'anglo-américain, bien qu'il soit né de parents français sur le terroir du Cotentin. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas le premier venu, tant s'en faut. C'est un vrai fils de ses œuvres. À l'époque de mon dernier voyage à Paris, je l'ai entendu à la chambre. Et bien qu'il eût à l'ordre du jour qu'une simple question pécuniaire, emprunt, obligation, report et différence, je suis resté sous le charme de sa parole brusque et autorisée. À l'aise à la tribune, comme chez lui, sans phrase, souvent les deux mains dans ses poches, avec sa grosse verve de financier gouailleur, qui se borne à l'éloquence des chiffres, oh, si vous l'aviez entendu, oh, si vous aviez pu voir miroiter ses dividendes, c'était à vous en faire venir les millions à la bouche. Il ferait un très bon ministre des Finances, et sûrement il deviendra. Oh, c'est un rude adversaire pour les petits avocats verbeux qui osent se croire des hommes d'État, et pour messieurs les généraux, qui, non contents de leur gloire militaire, voudraient passer pour des orateurs. Oh, sa rude logique, un bon de sanglier, culbutait leurs arguments comme des châteaux de cartes. Tu Dieu, Maître Gerbier, quelle chaleur d'âme pour votre nouveau client. Mais puisque vous le connaissez si bien, dites-moi, je vous prie, croyez-vous que ce nouveau acquéreur serait disposé, enfin, consentirait... Ah, monsieur le comte, vous revenez à votre idée fixe, très naturelle et très légitime du reste, le rachat des ruines, n'est-ce pas ? Albert fit un signe affirmatif. Or, sur cette question-là, reprit gravement le notaire, vous dissimulerez pas que M. Grandperrin n'a rien d'artiste et qu'il manque absolument de lyrisme. La partie des Chateaubriands sont pour lui des livres fermés. Il n'a guère le sens féodal, et franchement, je crois qu'il serait difficile à prendre par le côté des croisades. Mais nous verrons, comptez sur moi pour agir au milieu de vos intérêts et de votre désir. Si je vous ai prié d'être des nôtres pour ce soir, croyez-le bien, c'est d'abord pour avoir l'honneur de votre compagnie, mais aussi pour vous mettre en relation directe avec le nouvel acquéreur lui-même. Ne précipitons rien. Vous ne doutez pas de mon appui sérieux, si je puis vous être bon à quelque chose. Merci mille fois, mon cher monsieur Gerbier. J'accepte avec grand plaisir. À ce soir donc. À 6 heures, tous les invités se trouvaient réunis. Madame Gerbier, en femme bien apprise, qui connaît son monde et très heureuse d'ailleurs de recevoir, fit les présentations d'usage avec la meilleure grâce et sans gaucherie provinciale. Ayant toujours eu les plus grands égards pour la noblesse et le clergé, sans dédaigner l'intelligence du tiers-état qui s'enrichit honnêtement. À sa droite souriait l'abbé Dufresne. À sa gauche, M. Grandperrin était carrément établi dans sa chaise. Maître Gerbier, cravaté de blanc, rayonnait d'une façon discrète près de Madame Grandperrin, veuve marquise d'Evran, et le comte de Ruys se trouvait près de Mademoiselle Alice en robe maïs à nœud de velours noir. Les autres convives avaient été répartis dans l'ordre le plus harmonique au double point de vue des convenances et des caractères. À la louange de Madame Gerbier, disons que, sans être encombrante, les fleurs n'avaient pas été oubliées. De riches bouquets de plantes ornementales, plantes de rivière et plantes de jardin, étaient fort habilement disposées, de manière à réjouir les yeux sans gêner le regard et permettre à tous les convives de se bien voir et de s'entendre. Comme l'avait dit Maître Gerbier, M. Grandperrin était un homme tout rond. Figure ouverte, cheveux blonds frisés et favoris en côtelettes également frisées. Né sous une heureuse étoile, il s'était développé dans le sens naturel de ses aptitudes. Fils d'un petit filateur, il était devenu gros filateur. Trapu de taille moyenne, avec l'intelligence des chiffres, une santé robuste et une volonté non moins robuste, il était devenu très vite un des importants capitalistes de l'époque. C'était un excellent convive, bon mangeur et buveur sérieux, sans craindre pour sa raison. Il y a des buveurs intelligents, comme il y a des buveurs bêtes. Lui était un buveur intelligent. On prétendait même que c'était presque toujours après un ample déjeuner qu'il avait remporté ses plus beaux triomphes de tribune et donné ses meilleurs coups de boutoir parlementaires. « Ce diable de Grandperrin, disait-on à la chambre, quand il est sur l'Est avec ses 3 verres de Porto, ses chiffres nous parlent tout seuls. »« Que voulez-vous? Il avait su prendre la vie par ses bons côtés. Gardait sans doute une ligne de chant dans sa grosse main nerveuse et tout lui avait réussi, puisqu'il avait obtenu la marquise d'Evran, la seule espérance qui lui semblait d'abord impossible à réaliser. » Mais il s'était fait si humble, avait paru si dévoué, avec tant de sincère abnégation dans ses paroles émues, près du berceau de la petite Alice presque mourante, que la marquise avait laissé prendre sa main, bien froide d'abord. Avec le temps, elle avait fini par apprécier la rare valeur de l'homme, mine d'or par le cœur et intarissable banquier pour sa famille, payant toujours royalement, sans l'ombre d'un sourcil circonflexe, les notes les plus formidables des modistes et des couturiers, et disant parfois, avec un adorable sourire de bonhomie, « À quoi servirait tant d'argent si c'était à donner un peu de joie à ceux qu'on aime ?» Il dépensait à peine les 3/4 de ses revenus, et la mère et la fille passaient pour des élégantes du meilleur style dans les salons parisiens. Le comte Albert, placé près de Mademoiselle d'Evran, avait attendu avec la plus courtoise déférence que la robe maïs eût apaisé son bruit dans toute son ampleur, puis il vint s'asseoir à sa droite et se trouva bientôt sous le feu direct de 2 grands yeux intelligents et spirituels qui n'avaient l'air de ne rien voir, mais se rendaient compte de tout et dont les paupières étaient frangées de longs cils et dont l'iris était brun. Il ne put se défendre d'admirer avec un sourire d'artiste les livres infections d'un cou charmant, vigoureux et d'un blanc mat que faisait valoir dans toute l'harmonie de ses lignes le corsage un peu échancré et l'opulente chevelure châtain clair relevée à grandes ondes de moire avec des miroitements superbes. Il remarqua également de petites oreilles merveilleuses dans leur volute diaphane, oreille musicale si jamais il en fut, vraie fleur de chair ou de fin diamant tremblaient comme deux gouttes de rosée. Et malgré lui, il se prit à songer à ces immortelles naïades qui, dans nos bas-reliefs de la Renaissance, versent d'un bras arrondi l'urne penchée de leur fontaine, type d'aristocratie, de jeunesse et de grâce mondaine, que le génie d'un statuaire a su trouver parmi les belles rieuses de la cour de France en y mêlant un pur souvenir de la Grèce antique. Albert de Hovis comprit du premier regard que mademoiselle Alice Desvrans n'avait aucun doute sur son incontestable et fière beauté, qu'elle était parfaitement sûre d'elle-même et à l'aise dans sa robe et dans la vie, comme un libre oiseau dans la plume et dans l'air. La bonne et grosse gaieté verbeuse de M. Grandperrin avait de prime abord mis tout le monde à son aise. Après les premiers bruits de cuillères et de fourchettes, la conversation naissante se prit à battre la campagne à travers les généralités courantes. Il fut question de la contrée, des environs curieux à voir, du Mont Saint-Michel et de ses fameux sables. Source de tant de fables, et des belles rangées de tamarix ondulant aux deux bords de la route, de Cancale et de l'île des Rimins, d'Avranches et des profondes vallées rocheuses de Carole qui lui donnent l'aspect de Jersey, de Dinan sur la Rance et du Cap Fréhel qu'on visite en barque par les temps calmes, et de Saint-Malo et du Grand Bay où dort Chateaubriand. À propos de sa tombe, le comte Albert eut une sentie assez vive. Au lieu d'un mince grillage et de cette petite croix mesquine à peine émergeant du roc, j'aurais compris, s'écria-t-il, une haute croix de granit qu'on puisse saluer du large à 5 ou 6 lieues en mer, et disant de loin aux marins qui passent « Là, près de son berceau, repose quelqu'un de grand dont la France se glorifie. » « Je suis absolument de cet avis, » répondit mademoiselle Desvrans, d'une voix musicale un peu grasseyante, d'un charme incomparable d'imperfection dans son timbre perlé. Le comte s'inclina, tout fier de cette approbation. En habile maîtresse de maison et en femme de tact, madame Germier n'aborda qu'un peu tard le chapitre de la fameuse propriété dont son mari avait passé l'acte de vente. Ce ne fut guère qu'au dessert qu'elle parla pour la première fois à M. Grandperrin de son acquisition et de tous les points de la table. Ce fut un vrai concert d'éloges. « Monsieur, » insinua droitement à M. Grandperrin, maître Gerbier, la bouche encore sucrée par une grosse poire de beurre et d'arambert, « Monsieur, sans être trop indiscret, puis-je vous demander si votre intention est de faire des constructions nouvelles dans le pays et si vous devez conserver intacte la région des ruines ?»« Bon, foi, non, c'est trop rien encore. La question vous intéresse, paraît-il ?»« Oui, peut-être, mais indirectement. À propos de ces ruines, je sais quelqu'un tout disposé à racheter, si faire se pouvait, les ruines seules et un coin du vieux parc y attenant. » Permettez-moi d'ajouter que ce coin de vieux parc ne vaut guère mieux que les ruines pécuniairement. Ce sont de non-valeurs à proprement parler. C'est votre opinion bien fondée, je pense, répondit M. Grandperrin. Oh, assurément, oui. Figurez-vous un fouillis d'arbres inextricable où il fait nuit en plein jour, où rien n'est aménagé, où il n'y a pas fait une seule coupe depuis 30 ans. Et ces antiques futaies, chevelues et enchevêtrées, ne seraient bonnes ni pour la marine, ni comme bois de charpente. Toutes les avenues sont encombrées de vieux chablis, branches vermoulues, tombées au vent d'hiver. On n'y marche plus guère que dans la poussière de bois mort. Qui diable en pourrait vouloir dans ces conditions-là ? Fit joyeusement M. Grandperrin. Dame, reprit maître Gerbier, devenu sérieux. Quelqu'un y attachant une simple valeur morale, comme souvenir de famille. Votre voisin d'en face, monsieur le comte de Ruiz. Monsieur le comte, ajouta monsieur Grandperrin, je ne puis de prime abord vous dire ni oui ni non. Ne prenez pas ma réponse pour une parole de Normand. Vous allez vite la comprendre, je n'ai pas encore vu la propriété. J'ai acheté sans voir, pas tout à fait en aveugle pourtant. Et d'une part, mademoiselle Desvran m'avait dit que le pays pittoresque et accidenté lui plaisait. Et d'autre part, mon homme d'affaires, venu 5 ou 6 fois dans la contrée, avait préalablement flairé le terrain. Je savais alors pouvoir douter que tous les immeubles étaient d'un très bon rapport. J'étais donc sûr de ne pas m'enliser dans une mauvaise entreprise, mais pour en revenir à votre désir personnel, demain, dans l'après-midi, si vous le voulez bien, nous ferons ensemble une promenade aux ruines. Je prendrai l'avis de madame Grandperrin, consulterai mademoiselle Desvran, et si rien ne s'y oppose. Pour ma part, dit mademoiselle Alice, oh, je connais déjà ces ruines et je ne vois aucune objection à leur vente par sienne. Et je pense également que ma mère. Madame Desvran l'approuva d'un signe de tête. Le comte Albert la remercia d'un éloquent regard et une vive rougeur lui empourpra les joues. L'espoir renaissait en lui. En quelques instants, ce ne fut plus le même homme. Sa brusque sauvagerie s'humanisa et il semblait presque heureux quand on se leva de table pour prendre le café dans la chambre voisine où l'on apercevait le piano de Madame Gerbier, deux petites tables de jeu avec leurs tapis verts et des albums de photographies à tranches d'or sur une grande console en bois des îles. Le whist et les échecs eurent tort ce soir-là. On avait dîné tard, on fit simplement un peu de musique après le café. Le piano était neuf et bon. Madame Gerbier plaqua les premiers accords et acheva très correctement 2 ou 3 valses en vogue d'un opéra bouffe quelconque. Mais son jeu d'une teinte neutre contribua singulièrement à faire valoir l'exécution nerveuse et colorée de mademoiselle Desvran, qui lui succéda sans se faire prier et aborda les œuvres du grand style de Weber et de Beethoven comme si l'âme des maîtres passait en elle. Le comte Albert la complimenta sans réserve et sut trouver à propos quelques paroles ferventes qui furent très bien accueillies. « Eh bien, répondit-elle souriante, s'il en est ainsi, puisque vous êtes réellement satisfait, à votre tour, madame Gerbier m'a dit que vous chantiez. » Il ne s'attendait guère à cette brusque demande et fut d'abord un peu déconcerté, mais il comprit qu'il ne pouvait balbutier des excuses banales. Il essaya pourtant de dire que sa voix s'était rouillée dans la brume du marais et qu'il avait quitté Paris depuis longtemps à l'époque de Donizetti et du vieux succès de Don Pasquale. « Mais précisément, répondit-elle, Donizetti, frère poétique d'Alfred de Musset, génie d'artiste paresseux, ce sont souvent les meilleurs. Eh bien, nous écoutons la sérénade de Don Pasquale. Je vous accompagne de souvenirs. » Elle se remit au piano. Il s'exécuta de bonne grâce et chanta vraiment fort bien cette délicieuse inspiration d'un rossignol au cœur de feu disant l'amour des nuits heureuses. Sa voix émue, chaude et vibrante, sans faux éclats ni roulades pédantesques, lui mérita les applaudissements de l'auditoire et un très bon point de mademoiselle Desvran. Il la remercia vivement de l'avoir si obligeamment accompagnée, et vers la fin de la soirée, il la remercia de nouveau pour avoir plaidé si chaudement sa cause dans la question des ruines. Elle comprit à son franc regard et à l'accent de sa voix qu'il y avait dans ses paroles autant d'admiration pour sa beauté que de gratitude pour son intervention généreuse. Et ce soir-là, le comte Albert entra chez lui presque heureux, mais un peu troublé. Il traversa sur la pointe du pied la chambre où mademoiselle Berthe sommeillait, lui donna, sans la réveiller, un pur baiser filial, et, bien que fatigué par les émotions diverses de sa journée, il eut grand-peine à s'endormir. La nuit, il aperçut bien encore dans ses rêves quelques fragments des ruines, mais il en vit surgir une image nouvelle, une femme souriante en robe maïs qui le regardait fixement. La grande chevelure châtain clair, librement déroulée, lui descendait jusqu'aux pieds et dépassait la traîne de la robe sur les pelouses fleuries.